Ce matin, c'était si bien de voir que le Seigneur nous a sauvés de ce monde. Ça. Pas seulement ça, mais qu'il nous a donné l'onction. Et cette onction est si puissante, si efficace, que Jean, bien que c'était si difficile et qu'on ne pouvait pas voir toute cette situation, il a simplement dit, vous avez reçu l'onction et vous savez toutes choses. Ça nous montre déjà combien puissant l'onction est efficace en nous. Comme il a été dit, c'est le Seigneur lui-même en nous. C'est le Seigneur lui-même en nous avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a accompli. Tout son être et toute son œuvre, elle est là-dedans. Et Jean connaissait le Seigneur, il connaissait l'onction. C'est pour ça qu'il n'a pas vu le besoin d'expliquer tant aux saints, mais il a vraiment fait confiance à l'onction dans les saints, mais il encourage les saints qu'ils s'exercent de demeurer dans le Seigneur et d'être en lien avec cette onction. Parce que d'avoir seulement reçu l'onction, ça ne suffit pas encore qu'automatiquement on vivra toujours par cela. Ça a besoin d'exercice. Comme le frère vient de dire, il y a encore l'autre côté. Oui, nous avons l'onction en nous. Et elle est précieuse si elle est des saints et c'est le Seigneur lui-même. Mais nous avons aussi cette chair. Et après que nous soyons nés de nouveau, le péché vit toujours dans notre chair. C'est pour ça que nous avons besoin de nous exercer. Ça a besoin d'exercice. Et aussi un cœur de notre côté de dire au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais connaître l'onction. J'aimerais te connaître. Apprendre à demeurer en toi et de pouvoir marcher d'après cette onction. » Et au chapitre 3, il continue Jean et il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » C'est si merveilleux. Nous devons reconnaître l'amour du Père en tout ce qu'il a aussi fait. Si nous voyons combien ce monde est corrompu et déchu, est-ce que ce n'est pas une joie qui nous a sauvés? Est-ce que ce n'est pas un grand amour du Père? Représentez-vous, vous serez encore dans le monde, particulièrement aujourd'hui et à tout qui est déchu. Je remercie le Seigneur ces derniers temps que nous n'avons pas part à ce monde qui nous a sortis, nous a pas seulement sortis, mais nous a amenés à Sion. Est-ce que ce n'est pas merveilleux aussi dans ces jours, à la conférence ici, de pouvoir apprécier avec tous les saints d'être dans la lumière du Seigneur? Nous voulons dire, voyez quel amour le Père nous a aimés. Merci, cher Père. C'est si important que nous puissions expérimenter sa vie. Comme ça que l'amour pour le Seigneur augmente aussi, et si c'est merveilleux. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été nés de nouveau, nous avons reçu la vie de Dieu. Ça, c'était l'amour du Père, parce que nous ne l'avons pas mérité. Mais le Père a fait cela. Et c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été sortis du monde, pour ça que le monde ne nous connaît pas. On ne peut pas s'étonner si le monde ne nous connaît pas. Et on se sent parfois étranger, c'est normal. Et c'est aussi bien ainsi. Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est si bon, après la parole ce matin, de pouvoir nouvellement prendre cette décision au Seigneur. Je n'aime pas le monde. Je n'ai rien en commun avec ce monde, Seigneur. Je t'appartiens. Et ensuite, il dit, nous sommes des enfants de Dieu. Louez le Seigneur, c'est ce que nous sommes. Ensuite, il continue et il parle sur ce que nous serons. C'est merveilleux ce que nous sommes, mais nous devons aussi voir ce que nous allons être. Et il dit, il n'a pas encore été apparu ce que nous serons. On ne sait pas encore. Ça n'a pas encore été apparu, mais nous le savons. Et il dit, nous savons que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous avons cette assurance, nous verrons le Seigneur comme il est, mais la question c'est comment, quel est notre désir? de cela, de voir le Seigneur comme il est. Nous devons avoir ce tel désir, Seigneur, nous voulons te voir. Représentez-vous, si le Seigneur revient, nous allons le voir comme il est. C'est merveilleux d'avoir l'onction en nous aujourd'hui. Il y a aussi l'autre côté où Paul dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur. C'est étonnant. Nous avons l'onction de lui qui habite en nous. Mais Paul a aussi eu cette expérience de pouvoir sentir cette distance du Seigneur. Toute cette joie qu'il vit en nous, nous devons aussi avoir un tel désir. Seigneur, nous voulons te voir comme tu es. Et reviens bientôt. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Et Jean dit au verset 3, car quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend jusqu'à ce qu'il vienne? Non. Il se purifie lui-même. Il se purifie en lui, comme lui-même est pur. Nous n'attendons pas le Seigneur et nous ne faisons rien, mais nous nous purifions comme lui est pur. Et c'est si important que nous utilisions le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne, et c'est peut-être plus si long que nous puissions utiliser le temps pour nous purifier. Si on regarde sur le résumé à la page 6, au point 4, le titre est la révélation des fils de Dieu. La transformation dans l'image glorieuse de Christ. Et ceci, c'est quelque chose que l'onction veut faire en nous. Elle aimerait nous transformer dans l'image du Seigneur. L'onction n'est pas simplement là pour me montrer ce qui est juste et ce qui est faux. Si nous parlons de cela, que l'onction nous enseigne toutes choses, ce n'est pas simplement une doctrine qui nous dit « fais ceci, ne fais pas cela, ça c'est du Seigneur, ça c'est pas du Seigneur ». Elle fait aussi, mais ce que nous avons entendu, l'onction œuvre le Seigneur, l'humanité du Seigneur, c'est comme une onction. L'onction nous a été donnée, pas seulement pour nous enseigner, mais aussi pour nous transformer dans l'image glorieuse de Christ. On peut lire 2 Corinthiens 3. Il est aussi écrit, 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dans la même image, de gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas maintenant que nous attendons et nous restons comme nous sommes, et ensuite le Seigneur revient et nous sommes rendus semblables à lui. Non, Jean dit, celui qui a cette espérance se purifie déjà aujourd'hui, et le Seigneur aimerait déjà aujourd'hui, jour après jour, pas à pas, nous transformer à sa merveilleuse image. Est-ce que nous n'avons pas un tel désir? Plus nous voyons le Seigneur comme il est, c'est normal que nous ayons un tel désir. Seigneur, j'aimerais être rendu conforme. Transforme-moi à ton image. Que l'onction puisse œuvrer plus en moi chaque jour. C'est si merveilleux si nous avons cette attitude et ce désir dans notre cœur. Il y a une nécessité de nous purifier aujourd'hui. Et Jean dit même, comme lui-même est pur. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez que vous pouvez être pur comme le Seigneur est pur? Sœur, est-ce que tu crois cela? Parfois, si on se regarde, on ne peut pas le croire. Mais Jean a cette foi. Nous devons être purs comme il est pur. Et par l'onction en nous et par le Seigneur en nous, c'est possible. Et je suis pensé à Hébreux 7. Verset 26, le Seigneur décrit comme il est. Il dit un tel souverain sacrificateur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Notre Seigneur est ainsi. Notre Seigneur est pur, il est saint, il est libre de pécher, Il est sans péché, mais pas dans ce sens qu'il est comme ça et nous sommes différents. Non, Dieu aimerait que nous lui soyons rendus conformes. Il dit que c'est, il a exactement ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que c'est possible d'être rendu conforme au Seigneur. Et nous devons dire au Seigneur, Seigneur, je crois, même si aujourd'hui, je vois encore beaucoup de manques et de chantiers, nous devons croire au Seigneur et nous purifier. Et ceci est notre responsabilité. Là, il est dit, il se purifie. Bien sûr, nous prions souvent au Seigneur, Seigneur, purifie-moi. Et ceci est juste. Mais de l'autre côté, c'est nous devons aussi nous purifier nous-mêmes. Comme le frère l'a dit, si nous remarquons quelque chose qui revient de la chair, par exemple, ou si nous remarquons qu'il y a une tâche en moi, c'est ma responsabilité de dire, Seigneur, je me purifie de cela. Je ne veux pas laisser ça là, comme c'est. Ce n'est pas bien si on laisse ces impuretés en nous, si nous remarquons qu'il y a quelque chose en nous, une pensée, il n'est pas du Seigneur. C'est si bon si nous nous purifions et nous avons reçu le sang. Mais pas seulement le sang, nous avons aussi l'eau de vie. Et Éphésiens 5, le Seigneur dit qu'il aimerait donner un bain de la parole, d'eau de la parole. Pourquoi? Pour la purifier et la sanctifier. La purification, c'est vraiment important. Le Seigneur aimerait avoir une épouse sans tache ni ride. Et une partie importante de notre préparation pour sa venue, c'est que nous nous purifions. Et de dire au Seigneur, Seigneur, enlève toute tâche. Nous voulons être sans défaut. Comme nous avons aussi entendu, si nous marchons dans la lumière du Seigneur, le Seigneur va nous montrer de plus en plus que nous devons purifier. Nous n'avons pas tout cherché avec la loupe. Si nous marchons dans la lumière, comme le Seigneur nous montre, là, il y a une tâche, purifie-la. Jean a dit au début, si nous marchons dans la lumière et nous avons la communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché. Pas seulement du péché, mais aussi des taches et des rides. Souvent, je dois dire, chaque matin, quand je me lève, je n'ai pas toujours la conscience d'un péché dont je dois me purifier, mais est-ce que je suis toujours conscient? Il y a de la religion, il y a des choses vieilles en moi, il y a des taches et des rides. Parfois, spirituellement, même si je n'ai pas de péché, je dois quand même prier, Seigneur, purifie-moi avec l'eau de vie. Pour le tabernacle, vous connaissez l'image, il y avait cette cuve d'airain. Les sacrificateurs avaient cette instruction qu'ils pouvaient seulement entrer après qu'ils se soient purifiés. Pas seulement par le sang, mais aussi par l'eau de la vie. Ce n'est pas seulement pour boire, mais aussi pour purifier. Nous avons tous besoin d'une purification profonde. Pourquoi est-ce que ceci est important, pas seulement pour notre préparation personnelle, mais aussi pour le témoignage du Seigneur? C'est pour ça que Jean continue et il parle sur le résumé au point 5, qui parle de la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a des enfants de Dieu, c'est ce que nous avons lu. On peut être des enfants de Dieu, mais il y a aussi l'autre côté. Il y a même des enfants de l'ennemi, du diable. Nous avons vu ce matin, tout le monde est dans la main du malin. Ce monde est un système de Satan, avec une offre pour chacun. Mais comment est-ce que Satan œuvre dans ce monde? Nous avons déjà entendu, il se cache. Il ne se cache pas seulement. Satan utilise exactement comme Dieu des hommes. Satan, il n'est pas personnellement là. Il te donne quelque chose, il te propose quelque chose. Tout ce qui se passe dans le monde, pour la corruption, qui c'est qui fait cela? C'est des enfants du malin qui sont à l'œuvre. Et là, nous devons voir, il y a dans cet univers et sur la terre un combat entre Dieu d'un côté et Satan de l'autre côté. Mais les deux, ils combattent pas directement l'un contre l'autre, mais ils utilisent les deux des hommes. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit l'homme doit régner sur la terre. Mais ce matin, nous avons entendu le monde est dans la main du malin. Alors nous devons marquer il y a un conflit. Si Dieu a créé l'homme avec le but de régner, alors Satan qui a le monde dans sa main, il y a un combat. Et ça c'est pas ce que Jean a dit, que le monde est dans la main du malin. Le monde, lui, m'a dit, il est le prince de ce monde. Ce n'est pas simplement mesure de Satan, mais non, le Seigneur l'a aussi lui-même reconnu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps avant que Dieu ait créé les hommes, temps avant la restauration, comme on lit dans Genèse 1, où il y avait déjà une création. Et Satan était Lucifer. Et Dieu lui a donné de s'occuper de la terre. Et Satan n'a pas pris ça. Simplement, il y a eu un temps où Dieu lui a donné. Et étonnamment, après que Satan soit été déchu et était devenu de Lucifer à Satan, si on était Dieu, on lui aurait directement enlevé. Je lui ai directement dit, après Lucifer soit tombé, maintenant tu n'as plus le droit de régner sur la terre. Mais Dieu dit toujours, lui dit toujours, c'est le prince de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui enlève pas directement cette domination, mais il aimerait utiliser les hommes, et ça, nous devons le voir. Pour ça que Jean parle des enfants de Dieu d'un côté, mais aussi des enfants du diable. Et il y a un combat. Nous sommes au final en tant que l'Église là pour prendre cette terre à Satan, que tout le monde soit dans la main du malin. Ce n'est pas simplement une chose que nous devons prendre connaissance et ensuite dire « Ok, je n'ai rien à voir avec le monde ». D'un côté, oui, mais d'un autre côté, nous devons dire « ça ne peut pas rester ainsi, le monde n'a pas le droit de rester dans la main de Satan. Sa domination n'est pas d'une manière droite. Le Seigneur nous a demandé de régner. Bien sûr, parce que nous sommes déchus, nous sommes pas dans, ne vont pas régner. C'est pour ça que les politiciens sont comme ils sont. Les hommes, nous ne sommes pas de la manière là de pouvoir régner avec notre nature déchue. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur vient et amène le salut. Pourquoi? Pour nous restaurer, nous les hommes, afin qu'ils puissent régner par nous. Afin que par nous, ils puissent enlever la domination de Satan. Pour ça que 1 Jean 3, verset 8 est merveilleux. La deuxième partie. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Louez le Seigneur. Le Fils de Dieu n'est pas seulement été apparu comme au verset 5 pour enlever le péché, pour cela aussi, afin que Dieu puisse restaurer les hommes pour cette domination. Il doit d'abord vaincre le problème du péché. C'est pour ça qu'il dit au verset 5 qu'il a été apparu pour enlever les péchés. Le Seigneur a dû le faire. Mais c'est seulement nécessaire, un salut nécessaire, pour continuer à la fin, le Seigneur aimerait détruire les œuvres de l'ennemi et même de l'exterminer, mais par les hommes. C'est pour ça que si nous parlons de cela, nous nous purifions comme il est pur lui-même. Ce n'est pas pour notre préparation personnelle, mais c'est avec ce grand but en vue de pouvoir arracher ce monde de la main de Satan et Dieu puisse nous amener dans son royaume sur cette terre. Louer le Seigneur et cette vision, nous devons l'avoir devant les yeux. Et c'est pour ça, pour Dieu, c'est si important que nous voyons cette différence entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Et à la fin de l'Ancien Testament, dans Malachie 3, verset 18, le Seigneur a aussi dit, on verra à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu aimerait que nous puissions voir une différence claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, du malin. Mais combien de différences est-ce qu'on voit aujourd'hui? Parfois, On ne voit pas de différence entre nous, les croyants et les non-croyants. Et une raison pour cela, c'est que même nous, les croyants, nous sommes affaiblis. Et nous sommes entourés du péché. C'est pour ça que Jean doit parler si clairement du péché, parce que l'ennemi utilise particulièrement le péché pour nous affaiblir, nous les croyants, et nous amener en captivité même après que nous soyons devenus chrétiens. Dans Hébreux 12, verset 1, il dit « Nous devons nous débarrasser de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Qui nous enveloppe si facilement. Et ça, c'est ce côté négatif que le frère aussi... Bon, le frère aussi parlait. Oui, nous avons l'onction en nous. Louez le Seigneur pour cela. Mais le péché est toujours là. Et elle nous enveloppe si facilement. C'est pour ça que Jean dit dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est tout ce qui est contre la loi de Dieu. Et nous connaissons cette expérience. La loi de Dieu est sainte, bonne et droite. Et nous voulons le faire. Je ne crois pas que quelqu'un ici n'a pas ce désir d'accomplir la loi de Dieu. Mais le péché est là. C'est une force de notre chair. Et elle œuvre que nous pratiquons l'iniquité, comme il a été mentionné à la conférence, bien que nous ne le voulons pas. Le péché, c'est une force. Et avec le péché, il y a même la mort qui est entrée. Et la mort affaiblit tant de croyants. Et à la fin, il y a même l'église à Sardes où Dieu doit dire « Tu as le nom que tu vis, mais tu es morte. » Il y a sûrement beaucoup de péchés qui ont amené à la mort. C'est pour ça qu'au verset 5, il est dit, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Louez le Seigneur, nous devons regarder à notre Seigneur. Le péché n'est point en lui. C'est pour ça, comme il a déjà été dit, le Seigneur est notre offrande pour le péché, pour les transgressions. C'est merveilleux. Si nous regardons les offrandes dans Lévitique, et nous savons toutes ces offrandes, nous montre quelque chose de Jésus-Christ. Et Dieu a donné 5 offrandes principales et 2 parmi elles, il traite le problème du péché. Nous devons nous demander pourquoi est-ce que Dieu a donné 2 offrandes? Pourquoi est-ce que Dieu donne 2 offrandes pour les péchés? Pour le péché. La raison, c'est qu'il est dans le verset 5, il y a des péchés et il y a le péché. Ça, c'est la différence. Les transgressions, c'est ce que nous faisons, les transgressions, les œuvres de l'iniquité. Comme il est dit, le péché est iniquité, mais le péché, c'est la nature de Satan dans notre chair, dans notre homme déchu. Pourquoi est-ce que nous péchons? Bien que nous ne le voulons pas, parce que le péché habite en nous. C'est cette racine du méchant et c'est pour ça qu'il y a cette expérience. Dans Romains 7, le bien qu'on ne veut pas faire, on le fait, mais le mauvais qu'on ne veut pas faire, on le fait parce que le péché habite en nous. Et même après que nous soyons devenus chrétiens, nous devons toujours combattre avec cela. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. Premièrement, il est venu pour enlever le péché. Toutes les choses que nous avons fait à Dieu contre la loi de Dieu et ces choses nous séparent de Dieu et doivent nous amener à Dieu. Pour cela, le Seigneur a dû enlever les péchés, les transgressions. Mais le Seigneur n'a pas seulement enlevé les transgressions, nous a pardonné cela, mais il a crucifié à la croix cette racine. Pourquoi est-ce qu'il a pu faire cela? Parce qu'en lui, il n'y avait point de péché. Et ça, nous devons vraiment l'apprécier. Nous devons vraiment apprécier dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché n'est point en lui. C'est pour ça qu'il y a ces 2 offrandes. L'offrande pour les transgressions est là. Si nous avons fait une transgression, si nous avons transgressé, que comme 1 Jean, que nous reconnaissons, confessons nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle et nous pardonne nos péchés et nous purifie de toute injustice. C'est Christ comme notre offrande pour les transgressions et louer le Seigneur, c'est merveilleux. Si nous tombons aujourd'hui, Jean nous dit, nous avons un avocat auprès du Père. Il est l'expiation pour nos péchés. Et parce que nous avons Christ comme offrande pour le péché, nous pouvons confesser nos péchés et nous purifier. Mais ça ne suffit pas encore. Ça ne satisfait pas tant si nous péchons toujours nouvellement et particulièrement toujours dans la même chose. Toujours nouveau, confesser, être purifié et le prochain jour, le jour d'après, on fait à nouveau la même chose. C'est pour nous et pour Dieu pas satisfaisant. C'est pour ça qu'il n'y a pas seulement une offrande pour les transgressions, mais il y a aussi une offrande pour le péché. Et l'offrande pour le péché montre Christ en tant que celui qui traite la racine du péché par lequel nous apprenons à régner sur le péché. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, cette vie en nous, ce que le Seigneur nous a donné, dont Jean parle? Quelle vie est-ce que c'est? 1 Jean 3, verset 6. Celui qui demeure en lui ne pratique pas le péché. La vie de Dieu en nous est libre du péché. Et si nous vivons dans le Seigneur et nous demeurons en lui, alors nous pouvons régner sur le péché. Et encore une fois, en verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et beaucoup de croyants, ils ont un problème avec ce verset. Parce qu'ils le lisent et ils se regardent et ils pensent quelque chose qui n'est pas en ordre. Jean dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Nous avons lu avant que nous sommes nés de Dieu, mais nous péchons encore. Où est le problème? Est-ce que nous ne sommes pas nés de Dieu? Non, nous sommes nés de Dieu. Et Jean ne dit pas, on peut voir là, sur le résumé, au point Romains 5, 1A.1, Jean ne dit pas que les croyants ne doivent pas pécher. Ce verset ne veut pas dire que tant que croyant, automatiquement, tu ne vas plus du tout pécher. Si tu le fais, tu n'es pas né de Dieu. Ce n'est pas dit ainsi, mais ce que Jean veut montrer, nous avons quelque chose en nous qui ne peut pas pécher. La vie de Dieu en nous, cette semence que nous avons reçue, cette vie est libre du péché. Et si nous apprenons par le Seigneur, de vivre par le Seigneur, alors nous ne pouvons pas pécher. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? J'espère que de plus en plus nous avons fait cette expérience. Si nous sommes remplis par le Seigneur et fortifiés dans cette vie et nous vivons par lui, est-ce que c'est difficile de ne pas pécher? Ce n'est pas si difficile de ne pas pécher. Louez le Seigneur, parce que la vie en nous, la vie de Dieu en nous, elle ne peut pas pécher. Mais là, il est dit, c'est une semence, parce qu'une semence, elle reste en lui. Ça veut dire que ça doit grandir. Une semence doit toujours grandir. C'est pour ça que ce n'est pas quand on est devenu croyant qu'on ne pêche plus. On a cette vie en nous, cette semence, mais elle doit grandir. C'est pour ça, comme nous l'avons déjà entendu pendant la conférence, nous devons apprendre de s'occuper de cette vie de Dieu chaque jour, de nous laisser arroser, nous laisser purifier par cette eau magnifique, d'avoir la communion avec le Seigneur. Et de plus en plus, cette semence va grandir et cette vie en nous qui ne peut pas pécher, elle va augmenter. Et pas simplement pour nous, le but, ce n'est pas simplement que nous soyons des hommes sans péché, que le péché soit sous nos pieds, mais nous devons avoir ce grand but devant les yeux. Dieu aimerait que ça ne joue pas si nous sommes encore tant enveloppés par le péché. C'est pour ça que nous devons apprendre à connaître Christ comme notre offrande pour le péché et pour les transgressions. Et pratiquement, ça signifie que si nous péchons, nous sommes tombés dans un point, c'est si bon que pas seulement nous confessons nos péchés et nous demandons au Seigneur le pardon, mais si on va un pas après et dit « Tu es aussi mon offrande pour le péché, j'aimerais plus pécher dans ce point. » Fortifie ta vie en moi. Pas simplement d'être satisfait avec le pardon, mais d'apprendre à régner sur le péché et d'être purifié et sanctifié. L'offrande pour le péché montre aussi la sanctification. Nous recherchons la sanctification afin que le Seigneur puisse opter faire de nous un magnifique peuple. Louer le Seigneur ensuite montre aussi à quoi est-ce que les enfants du malin sont. Au verset 10, on les reconnaît. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est étonnant, j'aurais pensé, si tu me demandes comment est-ce qu'on reconnaît les enfants du diable, j'aurais dit, ils adorent Satan. Mais non, Jean amène quelque chose. Il dit, celui qui ne pratique pas la justice et qui n'aime pas son frère, ça veut dire, si je n'aime pas mon frère, j'amène quelque chose de la nature de Satan. Pour ça, nous ne devons pas penser les enfants du diable, c'est seulement les non-croyants. Si nous vivons dans notre chair, dans notre moi, alors nous sommes d'une certaine manière les enfants du diable. Nous amenons ça, son être à expression. Le Seigneur a dit dans Jean 8, 44, c'est un verset très étonnant, Jean 8, 44, il dit aux religieux, vous êtes de votre père. C'était des enfants du diable. Vous avez pour père le diable. On pourrait penser que c'est les non-croyants, les Romains. Aussi, sûrement, mais il dit aux religieux, vous avez pour père le diable, à tous ceux qui pensaient qu'ils connaissaient Dieu, il dit, vous avez pour père le diable. Ça doit être un choc pour ces hommes. Et plus tard, il voulait le lapider, parce qu'il a dit la vérité. Ils étaient vraiment comme ça, parce que ces gens religieux, ces pharisiens et docteurs de la loi, ils ont amené le diable à expression. Ils n'ont pas pratiqué la justice. Ils n'ont pas aimé les frères. Ils ont mis un tel fardeau sur les hommes. C'était ceux qui ont persécuté le Seigneur. Journalement, constamment, et ce sont ceux qui ont crucifié le Seigneur. C'est pour ça les enfants du diable, aujourd'hui, ce ne sont pas forcément des hommes dehors qui font des choses mauvaises, des choses criminelles. L'ennemi utilise aussi les croyants et malheureusement beaucoup les croyants. Et il y a tant de haine parmi les croyants. Les derniers jours, j'ai de nouveau pensé, si on entend de telles choses, les croyants sont capables de beaucoup de choses. Parfois, on peut juste demander combien de disputes et de... On parle mal des croyants ici. Qu'est-ce qui arrive à expression? C'est la nature du diable, parce que le Seigneur dit là, il était un meurtrier du début. Il n'est pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. La vérité n'est point en lui. S'il parle péché, alors il parle de sa propre... C'est le père, le menteur et le père des menteurs. Le diable est un menteur dès le début. Et si nous, les croyants, ne vivons pas par le Seigneur, alors il y a exactement ça qui ressortira. Peut-être pas physiquement, mais si j'ai mon père, alors c'est déjà un meurtre. C'est l'ennemi qui œuvre en moi. Et c'est pour ça que nous puissions être encouragés de vivre par le Seigneur, de pouvoir prendre garde de cette vie en nous pour que les enfants de Dieu et les enfants du diable soient exprimés. Et plus nous nous purifions et nous recherchons la sanctification et nous régnons sur le péché, alors plus cette différence sera visible. Et c'est ce que Dieu aimerait avoir aujourd'hui. Dieu aimerait avoir un témoignage pour que nous puissions voir à nouveau une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Louez le Seigneur. Seigneur, fortifie sa vie en nous tous.